Le journal Thomas Cluzel.
Bonjour à toutes et à tous. 16e jour d'une grève sans trêve avant Noël, même si le bureau de l'UNSA ferroviaire a invité hier à une pause pour les vacances. Tous les regards sont maintenant tournés vers la CFDT cheminots qui doit se positionner aujourd'hui sur la suite du mouvement. France Télécom et ses ex-dirigeants, dont l'ancien PDG Didier Lombard, ont été condamnés ce matin pour harcèlement moral durant les années 2000, période marquée par les suicides de plusieurs salariés. Une première pour une entreprise du CAC 40. Au Liban, au lendemain de la désignation d'un nouveau Premier ministre soutenu par le mouvement chiite Hezbollah, des manifestants, pour l'essentiel sunnites, bloquent depuis ce matin plusieurs axes routiers de la capitale. Enfin, les députés britanniques votent aujourd'hui pour donner leur soutien à l'accord de Brexit du Premier ministre Boris Johnson, ce qui... Le cas échéant permettra donc de lancer le processus d'adoption permettant au Royaume-Uni de quitter l'UE le 31 janvier prochain. Au seuil d'un grand week-end de départ en vacances, et alors que la France vit ce vendredi son 16e jour de grève dans les transports contre la réforme des retraites, la question posée reste invariablement la même. Y aura-t-il de la grève à Noël? Sur ce point, les annonces de la SNCF prévues aujourd'hui sur les trains qui circuleront ou non les 25 et 26 décembre sont évidemment très attendues, mais d'ores et déjà, 59% des TGV et intercités programmés lundi et mardi prochain ont été supprimés, ce qui signifie en conséquence que 48% des voyageurs ayant réservé devront échanger leurs billets. S'agissant à présent de cette journée de vendredi, là, la situation devrait légèrement s'améliorer par rapport au jour précédent, avec la moitié des TGV et un Transilien sur quatre en moyenne en circulation. Petit mieux également pour les usagers de la RATP avec 6 lignes de métro fermées. Alors, certains y verront peut-être les bénéfices de 2 jours de rencontre organisés à Matignon avec les syndicats et le patronat. Hier soir encore, Édouard Philippe affirmait que ces discussions avaient permis, je cite, des avancées concrètes. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors c'est vrai qu'hier on risque de faire dérailler le front syndical. L'UNSA ferroviaire, deuxième syndicat de la SNCF, a invité à une pause pour les vacances scolaires, comme l'avait fait d'ailleurs quelques jours plus tôt le patron de la CFDT, Laurent Berger. Pour autant, une trêve complète pour les fêtes paraît hors de portée, puisque de leur côté, la CGT cheminots comme Sudrail, respectivement première et troisième fédération syndicale de la compagnie, ont elles décidé de continuer le mouvement. Et puis surtout, Anne-Laure, il semble, s'agissant à minima de l'UNSA, on attend encore la réponse de la CFDT cheminots, que la base ne soit pas prête à suivre les recommandations.
Oui, une base pas du tout convaincue par les réelles avancées mises en avant par l'organisation syndicale. À Paris Sud-Est, par exemple, la grève a été reconduite ce matin en Assemblée Générale. Laurent Djebali de l'UNSA RATP incrimine d'ailleurs moins le secrétaire général de sa propre confédération que le leader de la CGT qui l'accuse de trahison.
Il n'y a que les confédérations qui ont capitulé, les agents du terrain, ils n'ont pas capitulé du tout. Nous, on n'est pas M. Martinez, voilà. M. Martinez n'a jamais appelé à la grève générale. Aujourd'hui, ce que nous, on attendait tous du terrain, c'est que les confédérations prennent leurs responsabilités, appellent à une grève générale. C'est trop facile de dire aujourd'hui, on est contre la réforme, mais ils appellent le 9. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant les 3 semaines? Peut-être M. Martinez, il va au ski, mais nous, on part pas en vacances, on fait grève.
La CGT cheminots, en tout cas, se félicite de cette position exprimée par une partie de la base de l'UNSA ferroviaire. Dans une série de tweets, son secrétaire général Laurent Brun salue ses collègues et liste les régions UNSA qui se mobilisent. On attend donc maintenant la position de la CFDT cheminots, qui doit prendre une décision dans la journée avec tous ses représentants en région. C'est la base qui décidera, affirmait hier un de ses représentants, cité par Le Parisien. Une décision scrutée, en tout cas, par Matignon. Ce matin, la porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, disait espérer une avancée positive, alors que le gouvernement aurait fait des concessions sur le calcul des pensions des cheminots. Mais ça ne permettra pas donc une trêve dans les transports. La plupart des grévistes restent mobilisés pendant les fêtes avant, affirme notamment la CGT cheminots, de reprendre plus fort à la rentrée.
Merci Anne-Laure Jumet. Alors l'unité syndicale a-t-elle vécu à la SNCF en commençant à céder petit à petit du terrain? On comprend bien la stratégie de l'exécutif qui vise à rompre ce front de mécontentement qui s'est formé à peine passé la présentation de la réforme. Hier, CGTF, FSU, Solidaire et 4 organisations de jeunesse ont appelé à une nouvelle journée de grève interprofessionnelle le 9 janvier, mais pas la SFDT, même si celle-ci reste encore fermement opposée à l'âge d'équilibre, où qu'ensemble progressivement se dessiner une sorte de guerre de trancher sur le front social. Pierre Neveu, bonjour.
Bonjour.
Alors pour l'instant, le gouvernement n'a pas encore réussi à briser totalement l'unité syndicale. Des milliers de marcheurs, qui ne sont généralement pas macroniens, sont à nouveau appelés dans la rue début janvier. Puis sur le front de la bataille de l'opinion, cette fois-ci, une majorité de Français reste favorable à la poursuite du mouvement. Selon un sondage Odoxa publié hier soir, il serait même 57% à imputer davantage la responsabilité au gouvernement qu'aux syndicats dans la crise actuelle.
Avec le temps et des négociations qui piétinent, le jeu politique veut que chacun se renvoie la responsabilité du statu quo et des blocages dans les transports. Hier soir, après une deuxième journée de concertation à Matignon, le gouvernement a ouvert une petite porte aux syndicats réformistes. Quelques aménagements, notamment sur un âge pivot modulé qui prendra en compte la pénibilité et les carrières longues. Mais ces ouvertures sont jugées insuffisantes par Laurent Berger, qui a fixé sa ligne rouge, le retrait de l'âge d'équilibre.
Je vous le dis, ça va monter très très fort au mois de janvier, en désaccord sur cet âge pivot. On ne peut pas accepter cette mesure injuste qui est d'abord une mesure de court terme.
Le patron de la CFDT ce matin sur l'antenne de France Inter. Alors dans ce bras de fer, le gouvernement sait qu'il doit lâcher du lest sans pour autant dénaturer sa réforme. Car la fin des régimes spéciaux pour un système universel de retraite, c'est l'engagement d'Emmanuel Macron qui ne peut pas se couper de son électorat de centre-droit dans l'objectif de la présidentielle de 2022. Et c'est là que s'engage la bataille de l'opinion. Dans l'ensemble, on constate qu'il y a autant de Français qui adhèrent à la mise en place d'un système universel que ceux qui le rejettent. En revanche, après plus de deux semaines de grève, le soutien à la mobilisation ne faiblit pas. Près de 7 Français sur 10 estiment que le mouvement est justifié. D'où ce commentaire d'Alexis Corbière ce matin sur France Info. Le gouvernement joue le pourrissement.
Un gouvernement qui est dur, qu'est-ce qu'il veut afficher? À qui veut-il parler? Quel secteur de la société il veut intéresser à être aussi dur? C'est lui qui bloque le pays, c'est pas les syndicats. Les syndicats, ils sont dans leur rôle de dire nous, on défend les salariés ne veulent pas de ce recul social.
C'est donc un Édouard Philippe calme et déterminé qui va devoir effectuer les arbitrages, sans pour autant affaiblir son positionnement. Rappelez-vous d'ailleurs ce que disait le Premier ministre lors de la restitution du grand débat au mois d'avril. Toute frilosité dans les décisions serait impardonnable.
Merci Pierre Neveu. Le procureur de la République de Paris a annoncé hier l'ouverture d'une enquête préliminaire portant notamment sur les faits de déclaration incomplète à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique des intérêts de l'ancien haut-commissaire aux retraites Jean-Paul Delevoye, contraint, je vous le rappelle, à la démission, c'était en début de semaine. Et puis, après l'affaire du monsieur retraite, donc l'autorité chargée de contrôler la probité des responsables publics s'est inquiétée d'un possible conflit d'intérêts concernant cette fois-ci la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, qui abandonne en conséquence son siège au conseil d'administration du Forum de Davos. Au terme d'un procès long de 2 mois dans l'affaire déclenchée par une vague de suicides de salariés il y a un peu plus de 10 ans, France Télécom, rebaptisée Orange, a été condamnée ce matin pour harcèlement moral à 75 000 euros d'amende. Par ailleurs, l'ancien PDG du groupe Didier Lombard, de même que l'ex-directeur des opérations Louis-Pierre Vénès, mais aussi le directeur des ressources humaines de l'époque Olivier Barbereau, ont tous été condamnés à 1 an de prison, dont 8 mois avec sursis et 15 000 euros d'amende. Alors, à l'exception du sursis, cela signifie que les juges ont en réalité suivi les réquisitions du ministère public en prononçant les peines maximales. Et puis surtout, ce jugement constitue non seulement une première pour une entreprise de cette envergure, mais également une nouveauté en ce sens qu'il vient consacrer le harcèlement moral institutionnel. Les précisions de Delphine Gaudchaud.
Première fois que des cadres et effectivement une entreprise du CAC 40 sont condamnés pour harcèlement moral systémique, peine maximale pour l'ancien PDG Didier Lombard, son numéro 2 Louis-Pierre Vénès et l'ancien DRH Olivier Barbereau. 1 an de prison dont 8 mois avec sursis et 15 000 euros d'amende. Pendant la lecture du jugement, la présidente a rappelé que la loi en matière de harcèlement n'était pas très répressive à l'époque des faits. Elle a d'ailleurs depuis évolué, les sanctions ont été alourdies. Elle a précisé qu'il ne s'agissait pas de critiquer les choix stratégiques d'une entreprise, mais bien les moyens utilisés par France Télécom. Vous en souvenez, à la fin des années 2000, l'entreprise avait mis en place un vaste plan de restructuration baptisé Next, avec 22 000 départs comme objectif, 10 000 mobilités, ce qui avait conduit à cette vague de suicides. La justice avait retenu 39 cas. Le harcèlement au travail peut-être un phénomène collectif, à analyser le tribunal correctionnel. Et puis, à noter également que Didier Lombard va faire appel de sa condamnation. C'est ce qu'annonce son avocat.
Pelouse bien tondue, drapeau déployé et écusson lustré. En Côte d'Ivoire, le camp militaire français de Port-Bouët s'est fait une beauté pour recevoir aujourd'hui Emmanuel Macron, venu 3 jours avant la fête de la Nativité célébrer Noël avec les soldats de la base. Alors évidemment, cette visite de 48 heures, loin de la crise de la réforme des retraites, aura aussi sans doute un goût de trêve de Noël pour le chef de l'État, même si en l'occurrence, on ne peut s'empêcher de penser que l'atmosphère ne sera a priori guère plus à la fête que l'an dernier, où déjà ce réveillon avec les troupes s'était déroulé en pleine crise des gilets jaunes. Et puis, avant tout, ce déplacement sera donc l'occasion pour le chef de l'État, ainsi d'ailleurs qu'il l'avait fait dès sa première année de mandat au Niger, puis au Tchad l'année suivante, d'appeler à nouveau les Français à penser à nos militaires, tout particulièrement ceux tombés sur le champ de bataille. Emmanuel Macron rendra notamment hommage aux 13 soldats de l'opération Barkhane, tués dans une collision accidentelle entre 2 hélicoptères au cours d'une opération anti-djihadiste au Mali. Et puis à l'issue donc de cette visite en Côte d'Ivoire, Emmanuel Macron fera dimanche une étape de 3 heures à Niamey pour s'y entretenir avec son homologue. L'occasion non seulement de rendre hommage aux 71 soldats nigériens ayant récemment péri dans l'attaque d'un camp militaire, mais aussi de préparer le sommet sur le Sahel prévu lui le 13 janvier en France et auquel seront conviés les présidents donc du G5 Sahel. Secouée depuis 10 mois par un puissant mouvement de contestation, l'Algérie vit aujourd'hui son premier vendredi hebdomadaire de mobilisation depuis l'élection à la tête du pays du très décrié Abdelmadjid Tebboune. Entré en fonction hier, à peine investi, le président mal élu a nommé un premier ministre par intérim et inviter les autres membres du gouvernement à expédier les affaires courantes. Alors, depuis que le soulèvement populaire contre la dictature, le népotisme et la corruption en Algérie est né, ce mouvement anti-régime a un hymne qui accompagne les milliers d'Algériens qui investissent les rues chaque vendredi. Son nom, Allo Système. Depuis le 5 mars dernier, cette chanson a été vue plus de 40 millions de fois sur l'internet. Et à l'origine de cette chanson, on trouve une jeune auteure-interprète, véritable passionnariat connu pour ses textes engagés, Raja Méziane, exilée depuis 2015 en République tchèque, et que notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig, a pu rencontrer.
Nous voulons une république, une démocratie pour le peuple et pas une monarchie. Dans la vidéo tournée en partie à Prague, Raja Méziane entonne le refrain du titre « Allô le système » sur des images des manifestations dans les villes d'Algérie, son pays qu'elle a dû quitter en 2015. Une décision difficile à prendre pour cette avocate de formation.
C'était le jour où on a refusé de me donner mon attestation d'avocate, quand j'ai refusé de chanter pour un 4e mandat du président Bouteflika. Donc c'est là où on a décidé de quitter l'Algérie parce que c'était plus possible.
Âgée de 31 ans, Raja Méziane vient d'être classée par la BBC parmi les 100 femmes du monde les plus influentes de cette année. Après 44 longues semaines de protestations pacifiques qu'elle observe à distance, Raja Méziane a le visage qui s'éclaire sous ses tresses noires et blondes quand elle parle du Hirak algérien.
Le peuple algérien était contre, c'est des millions et des millions qui sont descendus dans la rue pour dire non aux élections. Et en fin de compte, ce Hirak nous a libérés sur tous les niveaux. On est soudés, on s'aime, on s'écoute, on se fait confiance et c'est ça le plus important.
Et la capitale tchèque, théâtre de la révolution de velours en 1989, est une ville inspirante.
Ils ont fini par obtenir leur indépendance, c'est juste magnifique. Voilà, ça donne de l'espoir, pourquoi pas nous ?
Voilà un reportage signé Alexis Rosenzweig. Chant, danse et concerts traditionnels, les Soudanais sont descendus dans la rue hier à l'occasion du premier anniversaire du soulèvement qui a mis fin au régime d'Omar al-Béchir après 30 années de règne autoritaire. Rappelons qu'outre la chute du dictateur, le mouvement de contestation a également obtenu des militaires au pouvoir, un accord ayant débouché l'été dernier sur la création d'un conseil souverain composé de civils et de militaires. Et puis au Soudan du Sud, cette fois-ci le plus jeune état du monde devenu indépendant en 2011, le président Salva Kiir et son grand rival Riek Machar ont annoncé cette semaine qu'ils étaient parvenus à s'entendre pour mettre sur pied un gouvernement d'union nationale avant la date butoir de février, de quoi concrétiser donc a priori l'accord de paix signé en septembre de l'année dernière après de longues années de guerre civile qui ont fait quelque 400 000 morts. Au Liban, le président Michel Aoun a nommé hier comme chef du gouvernement l'ancien ministre de l'éducation Hassan Diab, une nomination qui marque la fin donc de plusieurs semaines de tergiversations entre les différentes formations sur le profil du successeur de Saad Hariri, lequel, je vous le rappelle, avait démissionné face aux vastes manifestations contre l'élite politique. Pas de quoi, en revanche, éteindre la colère de la rue qui a violemment réagi hier à cette annonce. Autant dire que la tâche de cet universitaire s'annonce d'ores et déjà compliquée. Correspondance à Beyrouth, signé Laure Stéphane.
Hassan Diab, le premier ministre désigné, se présente comme un indépendant. Il n'appartient pas à un parti, c'est un universitaire, plus connu dans le monde académique que dans les méandres de la politique libanaise. Il a toutefois déjà occupé des fonctions publiques comme ministre de l'Éducation il y a quelques années. C'est un sunnite, comme le veut la tradition pour le poste de premier ministre, et un ambitieux connecté à diverses universités dans le monde. Ses premiers mots se sont voulus conciliants face au mouvement de contestation en cours au Liban. Hassan Diab dit vouloir former une équipe de spécialistes. Il affirme aussi vouloir consulter les partisans de la révolte pour former son gouvernement. Mais la réaction des protestataires a été sèche hier. Une bonne partie dit rejeter son nom. C'est à un exercice d'équilibriste que Hassan Diab va devoir se livrer maintenant. Tenter de contenter le mouvement de la rue, mais aussi les diverses forces politiques qui n'ont pas l'intention de lâcher l'échiquier. Il n'a obtenu les voix que d'un peu plus de la moitié des députés. Son nom a été soutenu par le Hezbollah et ses alliés, pressés de mettre fin à l'impasse. Ils étaient les acteurs les plus forts avant le début du mouvement de contestation. À l'inverse, Hassan Diab a été boudé par le camp adverse et notamment par Saad Hariri qui espérait revenir au pouvoir. Reste à voir si le premier ministre désigné pourra dépasser les clivages politiques. Il s'est donné 6 semaines pour parvenir à former son équipe. Il y a urgence, le Liban s'enfonce dans une grave crise économique.
Après 3 reports du Brexit, mais aussi 3 ans et demi de crise politique et 2 élections, les députés britanniques entament ce vendredi l'adoption de l'accord de sortie de l'Union européenne négocié par Boris Johnson. Londres espère ainsi que la Chambre des communes adoptera d'ici le 9 janvier prochain l'ensemble du cadre législatif qui permettra de quitter officiellement l'UE 3 semaines plus tard. Reste qu'une fois le divorce acté, donc s'ouvrira alors une période dite de transition de 11 mois qui pourront même être encore prolongés d'un ou 2 ans, sauf que Boris Johnson, lui, a déjà promis qu'il aurait définitivement coupé tous les ponts le 31 décembre 2020 au plus tard, ce qui laisse évidemment très peu de temps aujourd'hui pour négocier de nouveaux accords avec l'Europe. Les précisions à Bruxelles d'Angélique Bouin.
Détricoter et réécrire en 11 mois une relation qui s'est construite en 40 ans ne sera pas une mince affaire et cela donne des sueurs froides au sein de la Commission. Le calendrier est extrêmement ambitieux, a reconnu cette semaine la présidente Ursula von der Leyen.
Si nous ne pouvons pas conclure d'accord d'ici fin 2020, nous serons de nouveau au bord du précipice. Ce qui nuirait clairement à nos intérêts, mais cela aurait plus d'impact sur le Royaume-Uni que sur nous.
Car nous continuerons à bénéficier de notre marché unique, a-t-elle ajouté. La balle est donc dans le camp des Britanniques. S'ils acceptent de conserver les normes environnementales, sociales, fiscales européennes, cela peut aller vite, souligne un expert. Mais Londres lorgne aussi du côté des États-Unis. Donald Trump a promis aux Britanniques un accord de libre-échange massif et bien plus lucratif que celui proposé par les Européens. Éviter du dumping à nos portes, c'est donc le principal enjeu de ces négociations express. Les 27 sont prêts, s'il le faut, à discuter des dossiers moins essentiels en dehors de la période de transition. Et si les négociations échouent, alors on aura 11 mois de plus pour se préparer à une rupture sans accord. Le no deal sera toujours moins brutal qu'aujourd'hui, soupire une source européenne. L'une des clés pour le négociateur en chef Michel Barnier sera de réussir à maintenir, comme il l'a déjà fait, l'unité sans faille des États membres.
La Cour européenne de justice de l'Union européenne a confirmé hier l'immunité de l'indépendantiste catalan eurodéputé Oriol Junqueras, condamné en octobre dernier à 13 ans de prison pour son rôle dans le référendum d'autodétermination de la Catalogne, c'était en 2017. La Cour qui a par ailleurs jugé sa détention illégale. Les Australiens l'appellent désormais le méga-feu après 3 mois d'incendies de forêt dans différentes régions. Plusieurs feux, on parle de 200 au total, ont maintenant fusionné en un seul et unique brasier devenu incontrôlable et qui fait rage même à 1 heure de route seulement de Sydney. Et pour en parler avec nous aujourd'hui, invité de la rédaction, Sylvain Angeron, spécialiste forêt à l'ONG Les Amis de la Terre. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Véronique Robérot. Bonjour Véronique.
Bonjour.
Première question, monsieur Angeron, est-il possible de déterminer l'origine de ce méga-feu?
Les origines, elles sont toujours doubles. C'est-à-dire que ce sont des feux qui sont à la fois, c'est des phénomènes qui sont naturels, mais qui aujourd'hui sont complètement exacerbés par les activités humaines. Et c'est pour ça qu'on parle de méga-feu. C'est qu'on est face à une amplification de ce type de phénomène naturel dans des proportions qu'on n'a pas connues, en tout cas dans les années les plus récentes, quoi.
Ça veut dire pression humaine, réchauffement climatique, c'est quoi alors ces origines diverses?
Ben, c'est la combinaison effectivement des premiers effets visibles du réchauffement climatique avec des niveaux de sécheresse très importants, avec des températures élevées, avec des sols qui commencent à craqueler dans de nombreux endroits, notamment en Sibérie où pendant des années on a toujours eu des sols qui étaient gelés, on appelle ça les permasols, et aujourd'hui ces sols sont en train de dégeler, d'être plus sensibles, si vous rajoutez à ce phénomène de réchauffement climatique des activités humaines de plus en plus nombreuses qui commencent à se développer dans des secteurs où il n'y en avait pas, alors là on parle bien sûr plutôt qui sont dans les forêts tropicales, en Amazonie, en Indonésie, où on voit bien que là, le moteur de ces feux, c'est davantage le défrichement pour cultiver des cultures de rente, style soja ou huile de palme.
Restons en Australie. À un moment, le pays a connu cette semaine deux records absolus de chaleur, hein, 40,9 degrés, ouais. 41,9 degrés en moyenne sur le pays, deux jours, donc je crois mardi et hier, plus de 50 degrés d'ailleurs à certains endroits, ce qui a conduit le Premier ministre australien à écourter un petit peu ses vacances et puis peut-être à commencer à faire le rapprochement avec le réchauffement climatique. Alors là, on a aussi un vrai souci, c'est-à-dire qu'on a des climato-sceptiques aujourd'hui dans pas mal de pays, on y reviendra tout à l'heure avec le Brésil, et des gens qui font pas le rapprochement veulent pas le faire.
Bien sûr, quand on parle de l'Australie, du Brésil, des États-Unis, on a effectivement aujourd'hui un retour malheureusement dans ces pays de gouvernements franchement climato-sceptiques ou en tout cas pas assez proactifs. Donc ça c'est une réalité. Maintenant, ce que vit l'Australie aujourd'hui, c'est ces pics de chaleur que vous rappeliez, malheureusement, ils vont faire que de se multiplier et il y a peu de choses à mettre en place pour, si ce n'est justement d'en prendre la mesure et d'arrêter, de mieux préserver ce qui reste à préserver, d'arrêter l'extension si on parle de forêt en Australie, des méga plantations d'eucalyptus. Puisqu'un petit peu comme au Portugal, en fait, on a énormément de monocultures d'eucalyptus. Ce sont des arbres en fait qui sont très sensibles au feu et qui s'enflamment très facilement. Donc tout ça, ça se combine en fait dans des boucles de rétroaction qui font qu'on arrive à ces phénomènes de méga feux comme en Australie aujourd'hui. Oui.
Un mot de l'Amazonie, proie des flammes en août et septembre dernier, où la déforestation n'a jamais été aussi forte sous la présidence du président Bolsonaro. La déforestation aurait doublé, c'est ce que nous indiquent les satellites, en un an. Des assassinats, des opérations policières qui visent aussi les leaders des populations autochtones et les militants écologistes. Ce n'est que le début, que croit-on savoir. Il y a de vastes plans de déforestation qui sont à l'étude dans des zones particulièrement reculées, dans des territoires indigènes. Ça peut donc être pire aussi encore?
Ça peut être pire, ça peut être mieux. C'est-à-dire que il y a plus de 10 ans, les taux de déforestation qu'on a aujourd'hui, le Brésil les a connus avant 2003. Quand même de rappeler, le Brésil est quand même aujourd'hui sous pression internationale. Nous on pousse très fort pour que la France prenne ses responsabilités, non pas en annonçant des projets farfelus de plantation d'arbres qui ne changeront absolument rien à la question de l'Amazonie, mais en prenant ses responsabilités sur les importations de soja, sur les investissements qui sont faits en France, notamment le rôle des banques françaises qui continuent de financer massivement les entreprises responsables de cette déforestation. Voilà. Donc on a au-delà des effets d'annonce et des symboles avec ces histoires de plantation d'arbres ou d'envoyer des pompiers, on a une vraie responsabilité à jouer là-dessus. Et ça, c'est le meilleur levier qu'on a pour faire pression sur le Brésil. Si à un moment les agro-industries ne trouvent plus des bouchers, on peut espérer arriver à lier la situation en attendant évidemment un changement de gouvernement.
Sylvain Angerand, on vous a un petit peu perdu. On reviendra sur toutes ces questions de forêt, c'est pas terminé.
Et on vous rappellera un jour.
Merci beaucoup Sylvain Jean, spécialiste, je le rappelle, forêt à l'ONG Les Amis de la Terre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Véronique Robert-Roth. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Pluvieux sur l'est du pays, surtout marqué par un vent violent. 12 départements ont été placés en vigilance orange. L'ouest, en revanche, retrouvera des conditions plus variables, parfois même agréables, avant toutefois l'arrivée de nouvelles ondées plus fréquentes et localement orageuses par la façade atlantique. Quant aux températures, elles afficheront entre 10 et 15 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Isabelle Souquet pour le prochain journal de la rédaction.